France Inter.
Bonjour, c'est Bernard Lavillier.
Affaires sensibles, c'est d'abord une voix, un son, et des affaires transparentes, souterraines, opaques, oblitérées, actuelles, très anciennes, encore, encore.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le dossier Lebensborn. Entre 1941 et 1945, l'Europe, on le sait, a été le théâtre de l'extermination de 6 millions de Juifs. En miroir de cette mort industrialisée dans les camps, le Troisième Reich a également dirigé un large mouvement secret de procréation, le projet Lebensborn. Le 15 août 1936, sous la direction d'Himmler, chef des SS, la première usine à fabriquer des bébés parfaits ouvre ses portes. Les maternités Lebensborn, fontaine de vie en allemand, ont abrité ainsi la naissance de plus d'un millier d'enfants. Des mômes aux yeux bleus, grands et blonds, du moins censés l'être selon leur généalogie. Pour intégrer ces nurseries qui doivent assurer le peuplement du Reich par la race germano-nordique, les mères sont sélectionnées selon d'obscurs critères anthropologiques. Avec ce programme ultra-confidentiel, Himmler rêve d'un État nazi qui serait peuplé de 120 millions de Germains nordiques d'ici 1980. Mais à la chute du Reich, que sont devenus tous ces gamins? Notre invitée aujourd'hui, Isabelle Maroget, illustratrice et autrice de la BD Lebensborn, sortie chez Bayard en janvier 2024. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Constance Villanova. Rédaction chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donante. Réalisation, Stéphane Cohn.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
L'ennemi est traqué dans d'immenses poches le long de la Moselle et dans la Sarre. Tandis que la première armée américaine progresse au-delà du Rhin, les Russes traversent l'Oder. Des troupes d'infanterie et des éléments motorisés de la 9e armée américaine franchissent la Ruhr, dernière barrière protégeant le Rhin.
Avril 1945, ça fait 3 mois et demi qu'Adolf Hitler assiste à la chute du Troisième Reich, terré dans son bunker berlinois. Sous terre, avec son épouse et son ministre de la propagande, Goebbels, il persiste à penser que tout n'est pas perdu et que l'armée rouge ne prendra pas à Berlin. À 14h30, en ce 30 avril, quand il est bien obligé de constater que la guerre est perdue, il se retire dans ses quartiers avec sa compagne, Eva Braun. Pour ne pas affronter la capitulation, le couple Hitler se suicide. Le Troisième Reich n'est plus. Les Alliés s'en emparent, à Berlin comme à Munich, administrés par l'armée américaine, fin du cauchemar. Le 3 mai, 3 jours après la mort du Führer, dans la commune bavaroise de Steinhöring, les GIs entrent dans un grand chalet décoré de drapeaux SS. À l'intérieur, 300 nourrissons et des enfants affamés, soignés tant bien que mal par leur mère et une poignée d'infirmières. L'un des derniers trésors nazis. Ce chalet s'appelle Hochland, Terre Haute. Il appartient à l'un des projets les plus secrets, les plus terrifiants des idéologues nazis. C'est en effet la première maternité spéciale dédiée à l'élaboration d'une race supérieure. Une fabrique de petits Ariens aux yeux bleus, grands et blonds, élevés en vue de peupler le Reich qui doit durer un millénaire. Hochland fait partie du projet L pour Lebensborn, imaginé par Heinrich Himmler, le chef de la SS. Pour comprendre ce phénomène monstrueux, il faut revenir aux origines même de l'idéologie nazie.
La race aryenne nordique est la détentrice de toute culture. La vraie représentante de toute l'humanité. Et c'est par application divine que le peuple allemand doit maintenir sa pureté raciale. La race germanique est supérieure à toutes les autres. Et la lutte contre l'étranger, contre le juif, contre le slave, contre les races inférieures, et sainte.
Année 1924. Emprisonné à Landsberg après son putsch raté à Munich, Adolf Hitler rédige son livre autobiographique et programmatique « Mein Kampf, mon combat ». Au chapitre 11, intitulé « Nation et race », le chef du parti nazi décrit le monde comme un ensemble hiérarchisé en fonction des races. En haut de cette classification pseudo-scientifique, la race aryenne, nordique, issue des anciens royaumes de Germanie, et, tout en bas, les peuples d'Europe de l'Est et les juifs, Untermenschen, sous-hommes. Hitler s'appuie sur les concepts élaborés par un certain Hans Günther, anthropologue et idéologue allemand, qui publie en 1922 ses études raciales sur son peuple. Selon lui, les Allemands doivent préserver leur pureté génétique et éviter tout mélange avec les races dites inférieures. Günther devient l'un des théoriciens majeurs du parti nazi. Dans son ouvrage intitulé « Ritter, Tod und Teufel », « Le chevalier, la mort et le diable », publié en 1928, le penseur de l'eugénisme nazi liste les traits du germain nordique idéal.
Grand, dolicocéphale, visage étroit, menton bien dessiné, nez mince, implanté très haut, cheveux clairs non bouclés, yeux clairs et enfoncés, peau d'un blanc rosé.
Le 6 janvier 1929, Heinrich Himmler est nommé chef de la SS, dont l'objectif est d'assurer la survie du parti nazi et du Führer en toutes circonstances. Avec la SS, il crée le laboratoire de la future race germanique. Les volontaires sont sélectionnés à la fois en tant que guerriers et mâles reproducteurs. Leur arbre généalogique est disséqué où on multiplie les examens médicaux. Les aspirants de l'or noir doivent ainsi prouver que leurs origines aryennes remontent à la guerre de 30 ans. Et c'est ainsi qu'ils décrochent leur sésame. Le Sippenbuch der SS, livre de la parenté SS, un passeport prouvant leur statut de descendant d'Aryens depuis 1750. La préservation de la pureté de la race devient alors l'objectif du Rucha, l'Office supérieur de la race et du peuplement, créé le 31 décembre 1931. En charge de la propagande raciale, cet organisme multiplie affiches et slogans pour convaincre les Allemands de ne pas s'adonner aux unions mixtes. Les mariages des SS sont eux aussi inspectés. En plus d'une généalogie idéale, la future épouse doit prouver que ses parents ne sont pas porteurs de maladie.
L'organisation Lebensborn aidera les chefs de la SS dans l'adoption et la sélection des enfants de bonne valeur raciale. L'organisation, qui est placée sous ma direction personnelle, a les obligations suivantes. Soutenir les familles nombreuses de bonne valeur raciale et de bonne hérédité biologique. Placer et soigner les futures mères de bonne valeur raciale et de bonne hérédité biologique, chez lesquelles un examen soigneux permet d'attendre des enfants de même valeur. Ordre général à la SS du Reichsführer SS Heinrich Himmler. Chaque médecin SS est tenu de respecter l'honneur des femmes enceintes, qu'elles le soient avant le mariage ou en dehors des liens du mariage. Le Reichsführer SS assurera le secret le plus absolu sur l'accouchement ainsi que sur le nom du père.
Et pourtant, en Allemagne, entre 1918 et 1933, sous la République sociale-démocrate de Weimar, la condition des femmes est l'une des plus avancées en Occident. Après avoir occupé les postes de leurs conjoints partis au front pendant la guerre, elles votent et peuvent être élues. La contraception n'est plus un tabou. Les Allemandes travaillent et s'émancipent. Mais la natalité est en berne, et surtout, après la débâcle de la Première Guerre mondiale, une crise économique déferle sur le pays. Le chômage atteint des sommets. Conséquence, les Allemands font moins d'enfants. Dès 1921, le Parti national-socialiste décide, lui, d'exclure les femmes de la vie politique. Hitler leur interdit ensuite le barreau et la magistrature. Réduites à leur ventre, elles se cantonnent à la sphère domestique. Les femmes des bureaux et des usines deviennent des femmes au foyer. Le 13 septembre 1935, à Nuremberg, Hitler fait l'éloge de l'inégalité femmes-hommes.
Quand le libéralisme se battait pour l'égalité des droits des femmes, le visage de la femme allemande est désespéré et triste. Et aujourd'hui, Nous voyons d'innombrables visages rayonnants et rieurs. Car il n'y a pas de plus grande noblesse pour une femme que d'être mère des fils et filles de la nation. C'est la plus haute noblesse qu'elle puisse jamais acquérir.
Alors, au début des années 30, la politique eugéniste du parti nazi se concrétise. Elle permet de justifier à la fois la procréation dirigée et l'extermination systématique d'une partie de la population du Reich. Ainsi, le 12 décembre 1935, Himmler fonde la société enregistrée sous le nom de Lebensborn, pour fontaine de vie donc, et selon la traduction littérale. Son but, augmenter la population aryenne en Allemagne. Les foyers et maternités estampillés Lebensborn peuvent accueillir à la fois les conjoints des SS sur le point d'accoucher, mais aussi les filles mères racialement viables.
Ordre à la SS et à la police. Au-delà des limites des lois, ce sera maintenant une noble tâche pour les femmes et les jeunes filles de pur sang allemand, si elles demandaient aux soldats qui partent pour le front, et cela qu'elles soient ou non mariées à ces soldats, de les rendre mères. Une telle conception ne serait pas entreprise dans un esprit frivole, mais avec le grave souci du devoir du soldat qui ne sait pas s'il reverra un jour le ciel de son pays. Aux hommes et aux femmes restés au foyer, les mêmes circonstances imposent plus que jamais l'obligation sacrée de faire encore des enfants. Heinrich Himmler.
Le 15 août 1936, devant l'immense bâtisse aux allures de chalet du Steinhoring, en Bavière, le personnel s'agite. Il fait doux, les lits sont faits, les fenêtres des chambres ouvertes. Himmler, le chef suprême des SS, vient inaugurer le premier Lebensborn d'Allemagne. C'est lui qui a organisé le rachat de cet ancien foyer d'accueil pour les enfants de l'œuvre catholique Carita. Le vent léger d'août agite le drapeau noir de la SS, agrémenté de deux runes nordiques, symbole du soleil. Steinhoring devient le prototype de toutes les usines à bébés parfaits à venir. Le médecin en chef responsable de la sélection des femmes admissibles s'appelle Gregor Ebner. Ce docteur de la famille Himmler est aidé par Max Sollmann, membre des SS et administrateur en chef. C'est donc lui qui fixe les règles d'admission, à savoir, pour être accueilli dans un Lebensborn, les postulantes doivent correspondre à un certain profil racial correct et ne doivent avoir aucun ancêtre juif. Les filles mères qui accouchent au Lebensborn peuvent-ils laisser leur enfant parfait pour qu'il soit adopté par une famille SS? Malgré eux, ces Lebensborn deviennent des enclos de mixité sociale. Les filles du peuple enceinte côtoient les épouses des hauts grades dès qu'ils séjournent pour la qualité de la prise en charge médicale. Les femmes mariées passent quelques jours dans le Lebensborn jusqu'à deux semaines avant et après l'accouchement. Les filles mères, célibataires donc, peuvent être prises en charge dès le septième mois de grossesse et pendant deux mois après la naissance. Parce que dans une Allemagne décimée par la pauvreté, le Lebensborn de Steinhoring se dote du matériel le plus avancé de l'époque pour une maternité et des meilleurs spécialistes de la pédiatrie et de la puériculture. Bien avant le déclenchement de la guerre, une dizaine de Lebensborn fleurissent ainsi en Allemagne et deux crèches et foyers ouvrent en Autriche. Mais le programme doit rester secret. Des escadrons surveillent ces nurseries. Impossible de savoir ce qui s'y trame. Les allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur doivent être évités à tout prix. Dans le livre référence au nom de la race, publié en 1975, Frau Maria, ancienne secrétaire de l'état civil de Lebensborn, raconte aux journalistes Marc Hillel et Clarissa Henry comment les mères du Reich millénaire sont choyées.
Même pendant la guerre, nous avons toujours eu des fruits frais. Ils arrivaient par wagon entier. Nous avons toujours bien mangé. La nourriture était suffisante et irréprochable. Elle était très variée, même si cela se répétait d'une semaine à l'autre. En tout cas, c'était très bon. Je me souviens encore que lorsqu'il y avait des concombres frais, l'infirmière en chef, au lieu de préparer le concombre en salade, le servait en légumes. Cela me faisait pitié pour ce bon concombre que j'aurais préféré en salade. Je me rappelle de ça, mais autrement, la nourriture était irréprochable.
Le programme Lebensborn, c'est la fierté d'Himmler. Le chef de la SS prend soin personnellement de ces Germains nordiques qui devraient, selon lui, atteindre les 120 millions en 1981. Si un bébé né le 7 octobre, date d'un anniversaire du chef de l'Ordre Noir, des jouets lui sont envoyés et le nourrisson a pour parrain le Reichsführer SS en personne. Et tout est prétexte au rituel. Himmler rêve de doter l'histoire germanique de la même renommée ancestrale que l'antiquité gréco-romaine. Pour assouvir son fantasme, il finance alors des missions archéologiques au Tibet. Son but, prouver l'existence d'une ancienne caste germano-nordique. En 1935, il crée même un institut de recherche pluridisciplinaire nazi pour centraliser les travaux des pseudo-spécialistes de l'origine de la race aryenne. À cette obsession pour les racines historiques, s'ajoute l'invention d'une religion germanique. Furieusement antichrétien, Himmler ne fait pas baptiser ses petits Aryens, mais tous sont soumis au rituel créé par l'ISS, la bénédiction du nom. Et voici à quoi ressemble un jour de fête dans le Lebensborn, comme le raconte la femme du docteur Ebner dans le documentaire de Marc Hillel et Clarissa Henry, Au nom de la race, diffusé en 1975.
Il y avait la cérémonie du nom. Il y avait toujours un officier de l'état civil. Les mères, bien habillées, arrangeaient bien les enfants. Dans la salle de séjour, il y avait des fleurs. C'était très solennel. Il y avait toujours à peu près une dizaine de femmes. Elles avaient leurs enfants dans les bras, et puis on donnait à chacun son nom. Je te donne le prénom Hartmut. Sois un homme dur, un homme fort et dur. C'était toujours un après-midi très gai avec du café, des gâteaux et des disques. Oui, c'était bien une fête SS.
Le décor. Un hôtel recouvert d'un drapeau à croix gammée surmonté d'un portrait d'Adolf Hitler. Le père, ou le directeur du foyer, donne alors le nom du bébé, un chandelier de vie lui est offert. Les mères et le personnel se mettent alors à chanter des extraits de Mein Kampf. Et le maître de cérémonie touche le front de l'enfant avec une dague SS et récite
« Nous croyons au Dieu de l'univers et à la transmission de notre sang allemand qui, éternellement jeune, croix de la terre allemande. Nous croyons au peuple, gardien du sang, et au Führer que Dieu nous a envoyé. »
Voilà, c'est fait. L'enfant né dans le Lebensborn est désormais un membre de la SS.
Is calling.
And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? And who by brave assent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, his latest command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say?
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le dossier Lebensborn.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Le projet L pour Lebensborn, c'est l'autre versant de l'Holocauste. À l'automne 1939, Hitler lance le programme secret d'euthanasie des personnes jugées génétiquement impropres. C'est l'Action T4, une campagne d'extermination par assassinat des adultes handicapés physiques et mentaux qui fait 70 000 victimes. Cette politique eugéniste aboutit à l'organisation du génocide des Juifs à partir de 1941. Le 22 août 1939, en uniforme nazi, poing levé, trait du visage déformé par la haine, Hitler prononce son discours à Obersalzberg devant les commandants de la Wehrmacht. Il y détaille l'invasion de la Pologne et valide l'extermination de son peuple. Mais attention, les enfants polonais seraient radicalement et racialement précieux. En 1939, un rapport circule au sein du parti nazi. Il s'appelle « La question du traitement des populations dans l'ancien territoire polonais sous l'angle de la politique raciale ».
Nous devons exclure des déportations les enfants racialement précieux et les élever dans l'ancien Reich, soit dans des établissements scolaires adaptés, soit dans des familles allemandes. Les enfants ne doivent pas compter plus de 8 ou 10 ans, car au-delà, ils ne pourront pas évoluer réellement dans leur identification nationale, c'est-à-dire la germanisation finale. À cette fin, il faut entièrement séparer les enfants de leur parenté polonaise. Les enfants recevront des noms allemands et un bureau spécial s'occupera de leur ascendance.
Pour Himmler, il faut renforcer la race germano-nordique en contrôlant les naissances, mais en s'emparant aussi d'enfants. Alors, les rafles s'organisent. D'abord repérés par des physionomistes nazis, les SS sont ensuite chargés de voler ces gamins à leurs parents pour les placer dans des camps temporaires. Ils sont ensuite sélectionnés par un examen racial approfondi. Comme des animaux de laboratoire, leurs torses, leurs jambes sont mesurés. Ils sont ensuite répartis en trois groupes, décrits dans le livre « Au nom de la race » qu'on doit aux journalistes Marc Hillel et Clarissa Henry. D'abord, ceux qui doivent vivre, les Aryens. Ensuite, ceux qui peuvent vivre. Et enfin, les indésirables, qui eux, doivent mourir. Elena Lanning a été sélectionnée par les SS dans un orphelinat en Pologne. Elle raconte son traumatisme dans le documentaire de 1994, Lebensborn, les enfants de la honte.
À l'époque, j'avais 11 ans et demi. J'étais dans un orphelinat. Et puis, un matin, la directrice nous a annoncé l'arrivée de la SS. Nous devions tous être là. Parce qu'il fallait qu'ils sachent combien nous étions dans l'orphelinat. Et si un seul manquait, nous devions tous aller en camp de concentration. Les SS sont arrivés. On devait tous se tenir alignés. Ils étaient trois et on en a choisi deux ou trois, dont moi.
Pourquoi, à votre avis, vous ont-ils choisi ?
Je ne sais pas. Je pense peut-être parce que j'étais blonde.
Le
lendemain, nous avons dû subir une visite médicale. On nous a mesuré la tête, on nous a examinés sous toutes les coutures. Ils ont choisi cinq filles et deux garçons. Et on nous a dit que le lendemain, nous partions pour Aschenbaden.
Elena fait partie des dizaines de milliers d'enfants enlevés pendant le Troisième Reich, arrachés à leur foyer et envoyés de force en Allemagne nazie. Une partie d'entre eux sont ensuite déplacés dans des Lebensborn pour être germanisés. Pour ces enfants à manipuler, il faut plus de lits, plus de personnel dans les pouponnières d'Himmler. Sachant que les camps de concentration et d'extermination se développent en parallèle des fabriques à bébés parfaits, naissances et morts se standardisent. Et c'est en Norvège que le programme Lebensborn triomphe. Dans ce pays qui capitule face à la brutalité allemande, comme la France et comme tant d'autres pays européens agressés par cette armée d'Attila, qui est la Wehrmacht, et surtout la SS. Le 10 juin 40, Himmler fait ouvrir 10 maternités nazies. L'État norvégien est considéré par le parti comme l'un des berceaux de la race germano-nordique, ce qui explique cela. Les soldats allemands sont encouragés ainsi à sympathiser avec les femmes locales. Ils sont 10 000 enfants à naître dans les Lebensborn norvégiens. Parmi eux, Tarlef Blatt, qui voit le jour le 14 septembre 1942 dans un Lebensborn de la banlieue d'Oslo. Dans le documentaire « Les pouponnières du Troisième Reich » de Laurent Icard, il revient sur les violences qu'a subies sa mère.
C'était assez compliqué pour elle. Et elles étaient exclues de la société. Parce qu'elles avaient eu le tort de coucher avec l'ennemi. Pour réaliser le désir d'Himmler, celui de cette race pure, ou d'une race aryenne pure, la Norvège était le pays rêvé. Les Norvégiens étaient connus pour être les descendants des Vikings et pour avoir des femmes blondes aux traits typiquement aryens. C'est pour ça que la Norvège était le pays rêvé pour le programme du Lebensborn.
Mais ces fabriques de bébés parfaits fleurissent également en Europe de l'Ouest. En Belgique, par exemple, au château de Végimont. Une immense bâtisse de style Renaissance plantée au milieu des Ardennes. Entre 40 et 50 enfants y voient le jour. Et la France non plus n'est pas épargnée. Pourtant, les théoriciens nazis ont peu d'estime pour ce pays et son peuple abattardi par des sangs mélangés. Sauf bien sûr l'Alsace et la Lorraine, arrachées à l'Allemagne à l'issue de la Première Guerre mondiale. Mais à la demande d'Himmler, des experts racialistes en carton-pâte effectuent quelques recherches opaques. Parmi eux, Franz Petri. En 1935, cet Allemand publie sa thèse intitulée « L'héritage national germanique en Wallonie et dans le nord de la France ». Ben voyons. À grands coups d'explications peu sourcées sur des déplacements de population, Petri affirme que le nord-est de la France et le bassin parisien auraient accueilli la race germano-nordique. Une chose est certaine, l'extermination industrialisée décime la population du Reich. Alors il n'en faut pas plus à Himmler pour valider en 1943 l'établissement d'un Lebensborn dans la France occupée. Il se trouve à 40 km de Paris, dans la forêt de Chantilly. C'est le manoir de Boislary, au cœur de la commune de La Morlaix. Le château appartenait à la famille des chocolatiers Meunier, qui l'avait rebaptisé Tournebride. Blottie dans une forêt dense, cette bâtisse au style anglo-normand, briques blanches et rouges, est totalement coupée du monde. Dans son livre « Lebensborn, la fabrique des enfants parfaits », le journaliste Boris Thiollet cite le rapport d'inspection du docteur Ebner, le médecin en chef du projet Lebensborn, en date du 29 avril 1944.
Une activité impressionnante règne dans les pièces du rez-de-chaussée. Salle de visite, chambre des mères et réfectoire. Les chambres manquent toutefois de couleurs et d'images accrochées au mur. Les berceaux sont fabriqués dans un matériau très sommaire, ce qui les rend dangereux. Il manque plusieurs objets nécessaires, comme par exemple un seau pour jeter les couches, ou encore des tables de nuit. Les mères séjournant à Westfald font bonne impression sur le plan racial et semblent bien intégrées.
Jusqu'à la capitulation allemande, cette pouponnière nazie a fonctionné pendant 185 jours. Dans un rapport daté de 1948, les services français en Allemagne indiquent que 23 enfants seraient nés ou auraient transité au manoir de Boislary. Pas plus de 21 femmes y auraient séjourné. Le 10 août 1944, l'unique Lebensborn de France ferme ses portes. L'Allemagne a capitulé, les Américains arrivent. Il faut se débarrasser des archives, déplacer le personnel et le matériel et protéger les trois derniers nés de la pouponnière nazie. Un détachement de SS s'occupe de son évacuation. En mai 1945, à Steinhoring, dans la première maternité du projet Lebensborn, même ballet, fuir et emporter avec soi le dernier trésor des SS. Les enfants des autres Lebens ont été réunis ici. Mais avant l'exil, il faut brûler les centaines de registres de naissance et éliminer les preuves du projet secret. Le 3 mai 1945, les GIs encerclent le joli chalet bavarois. Les enfants et les mères manquent de tout. Le baron Otto von Fleury s'est rendu dans ce Lebensborn juste après la débâcle.
Début mai, les Américains sont arrivés. Une femme est sortie avec un drapeau blanc. Finalement, on a découvert qu'aucun SS, aucun homme ne se trouvait plus dans le foyer. Tous les SS avaient fui en emmenant tous les stocks alimentaires et tout ce qu'ils ont pu prendre. Lorsque les Américains sont arrivés, il ne restait plus que les mères, les infirmières et les enfants.
Maintenant, que vont devenir les bébés parfaits ? À la fin de la guerre, les volontaires des Nations Unies prennent en charge les chéris du Reich à abandonner. Au mois de juillet 1945, dans un ancien couvent d'Indersdorf, bâtiment jaune du XIIe siècle désaffecté et récupéré par l'armée américaine, on accueille plus de 300 enfants. Parmi eux, des juifs rescapés des camps de la mort, des jeunes slaves, des placés et les petits Aryens nés dans les Lebensborn. Les enfants parfaits d'Hitler et d'Himmler cohabitent ainsi avec ceux qui étaient censés être exterminés. Un cocon après l'enfer. Greta Fischer, une juive de Tchécoslovaquie, s'est exilée en Angleterre au début de la guerre. Elle a perdu sa famille dans les camps. Elle est l'une des figures du couvent d'Indersdorf, dévouée à la reconstruction de ses gamins paumés. Et elle se souvient, en 1993, pour le mémorial de l'Holocauste aux États-Unis.
La première chose, c'était de leur donner de la nourriture, des vêtements, et puis d'écouter leur histoire. Nous avons écouté leur histoire nuit et jour. Il fallait que ça sorte. Et ça pouvait durer des heures, parce qu'on ne pouvait pas les interrompre. On faisait aussi attention à noter leur histoire.
Les enfants du Lebensborn et ceux des camps sont soignés, nourris et dorlotés par les Alliés. À 150 km, dans une ville en ruine, 6 mois après la capitulation allemande, s'ouvrent les procès de Nuremberg. À partir du 20 novembre 1945, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni veulent rendre une justice exemplaire aux motifs de crimes contre la paix et, pour la première fois, de crimes contre l'humanité. Les dignitaires nazis qui n'ont pas réussi à s'échapper sont sur le banc des accusés. Tous et tous plaident non coupables. En parallèle, des accusations visant les dirigeants du Reich, d'autres procès s'ouvrent qui visent l'administration des camps, les ministères et les 4 organisations chargées du programme de purification de la race aryenne.
Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes. Dans une salle comble, où le vrai public est formé par les millions de victimes du nazisme, le procureur lit l'acte d'accusation.
Parmi les accusés, 4 responsables de Lebensborn. Le directeur de l'organisation, Max Solman, son adjointe, Inge Wirmetz, le médecin Gregor Ebner et le responsable du service juridique, Gunther Tesch, jugés pour 3 chefs d'accusation, crimes contre l'humanité, appartenance à une organisation criminelle et crimes de guerre. Leur activité au sein de Lebensborn et le système d'enlèvement d'enfants à germaniser sont particulièrement disséqués. Verdict, le tribunal considère que les fontaines de vie n'étaient pas responsables des enlèvements d'enfants. Les 4 accusés sont seulement condamnés par appartenance à une organisation criminelle. Dans son enquête, Lebensborn, la fabrique des enfants parfaits, Boris Thiollet s'indigne.
Les enfants du Lebensborn sont des orphelins de l'histoire. En 1945, dans les décombres de l'Europe, où plus de 40 millions de vies humaines ont été englouties, ils sont quantité négligeable. Que pèse-t-il au regard de l'ahurissante hécatombe engendrée par la guerre, des massacres et de l'extermination menée méthodiquement par les nazis ? Il ne pèse rien. D'ailleurs, la nature criminelle de ce qu'ils ont subi échappe aux vainqueurs.
En tout, Lebensborn aurait vu naître entre 9 000 et 12 000 enfants. Et leur histoire ne s'arrête pas avec les procès de Nuremberg. Ces milliers d'enfants, eux aussi victimes du nazisme, qui n'ont pas choisi de naître dans ces laboratoires aryens, poursuivent encore aujourd'hui inlassablement la quête de leurs origines. Mais comment le faire quand le parti nazi a fait disparaître toutes les archives pour que ce projet secret reste secret ? Aujourd'hui, le dossier Lebensborn avec notre invitée Isabelle Maroget. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Approchez-vous du micro. Vous êtes illustratrice et autrice du roman graphique Lebensborn, paru en janvier de cette année, après un long travail d'archives sur la vie de votre mère née en Norvège dans une pouponnière d'Himmler. Votre projet de roman graphique est né d'une phrase qu'une inconnue vous a lancée alors que vous étiez avec votre enfant dans le bus, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Quand mon fils avait à peu près 5-6 mois, une dame dans le bus en face de moi le complimentait parce qu'il le trouvait très beau. Elle me disait qu'il était très blond, enfin il était plutôt chauve, mais voilà. Et elle me demandait si j'en voulais d'autres, si j'en avais d'autres. Et je lui disais que peut-être pas, que j'en voulais peut-être pas d'autres. Et elle me dit, si, il faut. Blond aux yeux bleus, ça devient rare comme race. Et là, j'ai tout de suite été renvoyée à mon statut de génitrice, de ventre. Et j'ai surtout été renvoyée à l'histoire de ma grand-mère, qui a accouché dans un Lebensborn.
Ça veut dire que votre mère a su qu'elle était née dans un Lebensborn ?
Ben nous, on ne l'a pas su pendant longtemps, parce que ma mère a été adoptée, est arrivée en France à l'âge de 2 ans.
Oui, et quel était son parcours d'ailleurs ?
On savait qu'elle était norvégienne, on l'a toujours su. Mm-hmm. Donc ça, voilà, il n'y avait pas de secret. Mais comme beaucoup d'adoptions, tout le reste, c'était que du mystère. Donc on a grandi avec un mystère, tout en sachant qu'elle était née en Norvège. Et puis elle a toujours dit qu'elle ne voulait pas savoir, parce qu'elle avait une famille qu'elle aimait profondément en France. Elle n'était pas à la recherche d'une famille. Elle disait aussi qu'elle avait peur de se faire mal. Donc je pense qu'elle avait quand même une intuition qu'en étant née pendant la guerre, il y avait une histoire qu'elle n'avait pas forcément envie de savoir là-dessous. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu l'arrivée d'Internet. Et l'arrivée d'Internet, ça a quand même été le savoir à portée de clic. Et son nom de village, elle le connaît, il est dans ses papiers. Mmh. Donc, ce nom de village-là, on sait que si on le googlise, on peut avoir des infos. Donc, elle n'y a pas résisté. Donc, elle a regardé, elle a trouvé un lac, elle a trouvé une forêt, puis elle a cherché un peu mieux, puis elle a essayé de trouver la maternité. Et il n'y en avait pas. Et elle a cherché un peu plus. Et en fait, si, il y en avait une, mais elle a seulement été là de 39 à 45.
C'était à
Lebensborn. Mmh. Et du coup, la réponse, elle l'avait. Et il n'y avait plus qu'à tirer le fil rouge.
Et alors maintenant, quelle est l'histoire de votre grand-mère ? Pourquoi a-t-elle accouché dans ce lieu-là ? Enfin, on l'a un peu raconté dans le récit. Oui. Pas votre grand-mère précisément, mais on a dit que la Norvège avait été élue comme l'un des pays où il fallait développer des Lebensborn.
Bah, ma grand-mère et sa sœur, d'ailleurs, elles étaient très jeunes, elles étaient norvégiennes, elles étaient pauvres. Mmh. Et la Norvège était très peu peuplée, il y avait moins de 2 millions d'habitants à l'époque. Hein. Et ils avaient envoyé 400 000 soldats allemands quand même là-bas. Donc, et ils organisaient des balles, et pendant les solstices d'hiver, il y a eu beaucoup de balles qui ont été organisées. Et ma grand-mère et sa sœur sont tombées toutes les deux enceintes en même temps. Elles ont accouché à 10 jours de différence, donc on peut supposer que c'était la même soirée. Hein. Et donc ma grand-mère, elle est sortie parce que... Oui, parce qu'elle avait rencontré un jeune Allemand quelques mois avant, qui avait une petite amourette qui avait débuté, et puis il l'avait invitée à ce bal-là, elle n'y a pas résisté, elle est allée. Mmh. Voilà, mais il n'y a pas une histoire de Lebensborn, il y en a autant que d'enfants.
J'imagine. Et après, qu'a fait votre grand-mère après l'accouchement ?
Déjà, ça a été un drame d'apprendre qu'elle était enceinte. Moi, j'ai appris par une grande tante que si elle avait pu, elle aurait avorté. Donc, c'était vraiment un drame, ce n'était pas un choix. Mais ce qu'elle a fait, c'est que tout de suite, son Allemand lui a dit « Ben, tu sais, tu vas être pris en charge, viens. » Et très rapidement, dès qu'elle n'a pu le cacher, elle est allée se réfugier dans le Lebensborn et elle a été choyée. Parce que c'est vrai qu'elles étaient choyées, ces femmes-là. C'était terrible, hein, mais c'était des petites bulles au milieu de la guerre. Donc, elles avaient tout ce qu'elles avaient besoin, ce qu'elles n'avaient pas. Voilà. Et donc, elle a accouché en fin septembre 1944 de ma mère.
Et après, il s'est passé quoi ?
Après, c'était la fin de la guerre, donc fin 44.
Donc votre grand-mère a repris sa vie enfin...
Ah non, non, mais en fait, elle a envoyé une lettre à sa sœur, ouais. Et qu'elle en a parlé à sa mère, et sa mère est venue la sortir du Lebensborn. Elle était sortir sa fille et sa petite-fille. Mm-hmm. Alors on ne sait pas si elle a été aidée de la résistance norvégienne, on a un peu une zone grise là-dessus. Mais en tout cas, oui, elles l'ont arrachée, parce qu'elle n'a pas de date de sortie sur son... Parce qu'on parle des documents... Brûlé, vous en avez parlé, des documents qui ont été détruits.
Effacer les traces, oui.
En Norvège, ils n'ont pas été détruits, ces documents-là. Donc, il y a une vraie richesse de... On accède plus facilement aux informations. Ce que beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance d'avoir.
Mmh. Isabelle Maroget, ce grand-père, donc cet Allemand, père ou géniteur, je ne sais pas comment dire, de votre mère, donc, il a été retrouvé. Comment ça s'est passé ?
Alors déjà, on a mis plus de temps pour le retrouver. On avait son nom dans le dossier, mais il avait un nom très courant en Allemagne. Donc, on a eu vraiment... longtemps. On a mis 2 ans de plus par rapport à ma grand-mère pour le retracer. Mm-hmm. Et on savait qu'il était vivant quand on l'a... Ce qui n'était plus le cas de ma grand-mère quand on l'avait retrouvé. Et on a fait appel du coup à la Croix-Rouge française. Et puis après, comme on ne trouvait pas, on a fait appel... Ma mère a fait appel à un détective privé.
D'accord.
Pour le contacter, on a eu son adresse et ma mère lui a écrit une lettre.
Et qu'est-ce qui s'est passé après?
Bah du coup, ils ont dit, bon, j'informe ma famille, vous pouvez venir, voilà, il va falloir que j'informe ma famille. Personne n'était au courant de qu'il avait eu ce passé-là, enfin en tout cas qu'il avait eu une fille. Et avec ma sœur et ma mère, on est allé le voir, on est allé le rencontrer. On avait beaucoup imaginé, je ne sais pas, une rencontre, quelque chose de fou, quelque chose de... On a été assez déçus, c'était assez distant, assez... Mais en même temps, ça nous a quand même comme remplir un puzzle de son...
Comblé à vide,
oui, voilà.
Bien sûr.
On a des réponses.
À quoi il ressemble,
voilà.
Tellement important.
Exactement, voilà, on sait d'où on vient, son menton, par exemple. Tiens, voilà, c'est ça. Mais après, ça n'a pas été plus que ça, ça a été assez décevant, mais... Ouais.
Et ensuite, les relations...
on a gardé des grandes relations côté norvégien, parce qu'on a retrouvé la famille norvégienne, et ça a été beaucoup plus fort, parce que justement, je pense qu'ils avaient, eux, des traumas, des failles. Enfin, je pense qu'ils se sont complotés de deux côtés. Il y a eu un côté famille qui s'est fait de manière très immédiate, ce qu'il n'y a pas du tout eu du côté allemand. Le côté allemand, on l'a vu une fois pendant 3 jours, et puis on ne l'a plus jamais revu.
Ah ouais, voilà. Plus
non,
jamais.
Plus jamais, non.
On en a parlé dans le récit assez peu. On a dit que la Norvège a été le lieu qui a donné le plus grand contingent de bébés nés en Lebensborn. On n'a pas dit pourquoi. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi la Norvège est...
C'était occupé aussi. Donc c'était
oui, il y avait d'autres pays.
Et puis
pays
Himmler, il avait une sorte de projection de la femme norvégienne comme une sorte de déesse nordique.
Ah oui, comme un modèle, d'accord.
Voilà, et puis on pourrait dire pareil pour la Suède, mais la Suède, par exemple, n'était pas occupée. Donc c'était le terreau parfait, la Norvège, pour ça.
Ouais. Alors vous, sur quelle matière avez-vous travaillé pour le roman graphique? Parce qu'il y a quelque chose de très personnel, hein, même si c'est à l'adresse d'un public le plus large possible, je vous le souhaite. C'est très personnel quand même.
Moi j'ai travaillé beaucoup sur les recherches de ma mère. Ma mère, cette famille-là, norvégienne, dont je parle, on l'a retrouvée il y a plus de 20 ans, quand moi j'étais étudiante. Et c'est ma mère qui, à l'époque, nous, on était partis, on faisait nos études, et elle s'était vraiment lancée dans ses recherches. Elle a elle-même écrit un livre. Donc moi, j'avais quand même une matière première qu'elle avait déjà... J'ai pas eu à chercher cette matière-là. Donc j'ai travaillé sur... et aussi sur ce que je savais, comment je l'avais vécu. Voilà.
Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu... la BD, expliquez-nous comment vous l'avez articulée.
Alors au début, j'ai mis longtemps à trouver mon axe. Je voulais raconter vraiment comme une immersion dans les années 40, où on aurait suivi ma grand-mère adolescente, rencontrer mon grand-père. Et puis, j'arrivais pas à trouver le ton. Et puis, je me suis dit qu'en fait, ces problèmes-là, ils résonnent encore très fort aujourd'hui. Et justement, cette scène de bus dont on parlait au début, voilà, c'est... expliquer comment on croit que c'est le nazisme, que c'était il y a très longtemps, mais en fait c'est encore là, c'est prêt à surgir. Et donc je l'ai vraiment raconté, comment ces petites choses qui m'arrivaient au quotidien résonnaient sur l'histoire de ma grand-mère. Et j'ai aussi raconté l'histoire, comment elle est arrivée à nous, comment on est parti d'un mystère et comment il s'est éclairé, comment j'ai rencontré ma grand-mère, mes cousins, mon grand-père, voilà.
Et depuis cette publication, est-ce que vous avez eu des retours de la part de personnes directement concernées par cette histoire, comme des enfants ou des descendants de Lebensborn?
J'en ai eu quelques-uns. Alors j'ai eu plein de retours sur plein de choses différentes. Beaucoup de gens m'écrivent en me disant « Tiens, je me reconnais là-dessus, l'image avec le puzzle ». Mais pour parler des enfants Lebensborn, oui. Alors déjà, j'ai rencontré par un ami commun Mathieu Nyango, dont la mère Gisèle est née justement au château de Véguimont, le Lebensborn belge. Et qui était en train de travailler d'ailleurs sur une pièce de théâtre qu'ils ont fait là cette année, Les Petits Chevaux. Et j'étais très contente de pouvoir partager cette expérience. Il y a un côté comme si on faisait un peu partie de la même famille. C'est très bizarre de dire ça, mais il y a un peu ce côté-là. J'ai aussi rencontré il n'y a pas longtemps Franck à un salon du livre, et il me racontait que sa grand-mère allemande avait accouché dans un Lebensborn d'un petit garçon qu'elle avait cherché toute sa vie et qu'elle n'avait jamais retrouvé. Et c'était très fort comme rencontre. Et une rencontre assez folle aussi que j'ai fait cette année, c'est Johan, un Suisse norvégien. Et lui, son grand-père, c'était le médecin accoucheur d'Urdalverk, le Lebensborn où est née ma mère. Et donc, quand les accouchements étaient... Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de médecin qui... Le médecin ne venait pas, mais si, Je sais pas, c'est peut-être lui qui a fait naître ma mère, en fait. C'est, enfin, pas lui, son grand-père. Mais c'est quand même assez fou, en fait. C'est assez fou.
Bah oui. Voilà. Et on comprend pourquoi ça, ces gens sont liés par la même histoire. C'est tellement fort.
Oui, voilà. Et puis, j'ai eu aussi beaucoup de témoignages de personnes qui me disaient « Mais en fait, c'est peut-être la clé de mon histoire. » Parce que moi, ma grand-mère, elle est blonde aux yeux bleus. On n'a jamais su d'où elle venait. C'était une orpheline de l'histoire. Et je suis en train de me dire, en lisant ta BD, qu'en fait, c'est peut-être ça. Donc, j'ai eu aussi ce genre de témoignages en disant « Je crois que j'ai envie de chercher.
» Bien sûr. Et d'ailleurs, comment les enfants nés dans ces centres, Lebensborn, ont-ils été perçus après la guerre en Norvège? Est-ce qu'il y avait un regard sur eux qui était différent?
Bah, surtout les femmes, elles ont été des parias de la société, comme on parlait, on a écouté le témoignage d'une dame tout à l'heure, là, elles ont été rejetées. Oui, c'était à un moment, la Norvège, ils avaient même planifié de les envoyer toutes en Australie. Il y avait ça ne s'est pas fait.
Comme s'ils y étaient pour quelque chose.
Voilà, exactement. Et par exemple, la plus célèbre de ces enfants-là, c'est Frida, la chanteuse d'Abba, la brune. Et on pense qu'elle est suédoise, mais en fait, elle est norvégienne. C'est sa grand-mère qui l'a élevée, parce que sa mère s'est suicidée. Mm-hmm. Et sa grand-mère l'a fait traverser la frontière pour en faire une suédoise, pour qu'elle soit pas, justement, qu'elle n'ait pas ce regard-là sur elle.
D'accord. Votre mère est-elle en vie?
Bien sûr, elle vient de fêter ses 80 ans.
Et donc, elle a lu le roman graphique.
Oui.
Et évidemment, racontez-moi comment elle a réagi, ce qu'elle vous a dit.
Bah, ma mère, elle voulait avoir un œil sur ma... Quand elle a su que je voulais m'attaquer à ça, elle voyait... J'étais plusieurs fois chez elle quand je travaillais. Elle voulait avoir un regard et moi, je voulais pas trop parce que j'avais des zones grises et j'avais peur qu'on soit pas alignés. Et j'avais peur aussi qu'elle ait un regard de maman correctrice, un peu. Mmh. Et donc, on a eu un peu un petit conflit là-dessus. Et puis finalement... Quand le livre est sorti, ça a été, je l'ai envoyé tout de suite et elle était terriblement émue, elle a pleuré et elle m'a dit que c'était le plus beau cadeau que j'aurais pu lui faire.
Bah, ça se comprend.
Ouais.
Hein, on comprend son sentiment. Isabelle Maroget, donc je rappelle que vous êtes l'illustratrice et l'autrice de ce roman graphique, Lebensborn, paru en janvier de cette année, réalisé grâce à un grand travail d'archives et aussi un travail de vécu auprès de votre mère. Merci infiniment. Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier Lebensborn, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, à la technique. Aujourd'hui, il y avait Juliette Petit.